Je pense que, y a plusieurs cercles, les uns autour des autres, et que pour répondre à votre question, il faut essayer déjà de les déterminer. D'abord, on va commencer par le cessez-le-feu. D'après moi, le cessez-le-feu va tenir. Ce matin, il y a le ministre Anne Eghby, qui est très connu, qui est un homme qui venait du parti Tria, donc qui est plutôt la droite de Netanyahou, qui lui-même n'est pas vraiment un homme de gauche. Donc c'est un dur. Il a dit non, cette fois, moi je pense que ça va tenir. Ça va... D'après moi, on en a pour 15 ans de calme avec le Hamas. Alors il faut savoir que quand eux, ils parlent comme ça, eux, c'est-à-dire ceux qui font partie du cabinet de sécurité, c'est qu'ils ont des informations que nous, on n'a pas. Parce que sinon, ils diraient, bon, on va voir, on va être dur, on va voir. Blablabla, même si on veut. Mais s'il dit, je crois à une période de calme de 15 ans, c'est qu'il sait que le Hamas a pris des coups très, très durs. Parce que 15 ans, c'est beaucoup. Il faut savoir que la veille de la cessation des hostilités, Saal disait, si on arrive à 5 ans de calme, on a gagné la guerre. Et c'était plutôt vers ça qu'on se dirigeait. D'ailleurs, peut-être qu'à l'aiguille, on rajoute. Mais déjà, 5 ans, c'est déjà énorme. Parce qu'il faut savoir que depuis 16 ans, Israéliens et Palestiniens sont en guerre tous les 2 ans, 2 ans et demi. 5 ans, ben, c'est le double. Et croyez-moi, pour les populations du sud d'Israël, c'est pas rien. Alors, premier cercle, cessez-le-feu. Deuxième, que va essayer de faire Israël pour consolider cessez-le-feu? On verra le processus de paix après, si jamais ce mot veut encore dire quelque chose sans être grossier. La reconstruction de Gaza ne sera permise, dit Benjamin Netanyahou et Benny Gantz, qu'avec le retour des prisonniers et des corps de nos soldats, c'est-à-dire Golzin, etc. Pas ceux de maintenant, il n'y en a pas eu, mais ceux des conflits précédents. Bon, ça peut être des slogans, je vous le dis franchement. Mais il y a une autre chose qui est une vraie question. Qu'est-ce qu'on fait, Serge, avec l'argent du Qatar? Tous les mois et demi, les Palestiniens remettent le feu dans le sud avec des bombes incendiaires dans le sud d'Israël, jusqu'à ce que l'argent du Qatar soit livré. Et vous savez que c'est des transferts, c'est des valises de billets, hein, c'est comme dans les films. Mais on se doutait bien quand même que le Hamas n'est pas bête et que donc il allait prendre 2 ou 3 valises au passage à chaque fois. Or, on a vu le prix, je ne sais même pas quel mot utiliser, hallucinant, que doit le payer Israël. 4 300 roquettes en 11 jours. Et on dit, nous, des roquettes, faudrait les appeler des missiles, parce que quand vous êtes capable de toucher Tel Aviv, à partir de la bande de Gaza, c'est pas une petite roquette de char. Et ça coûte une fortune. Alors bien sûr que les Iraniens ont donné sans compter, qui a donné des missiles gratuitement, mais il y a aussi l'argent du Qatar. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Parce que c'est devenu maintenant un... Comment on va appeler ça? C'est une ritournelle. C'est un pas de deux. C'est une danse, un tango qu'on connaît par cœur. On fait voler le sud d'Israël. Les Israéliens achètent la paix en laissant passer l'argent du Qatar. Et on recommence un mois et demi après. Mais je viens de le dire, maintenant on voit que c'est pas juste un tango. Ça coûte très très cher pour la population israélienne. Et donc il va falloir prendre des mesures. On pourra pas refaire. Si on refait, c'est vraiment, là pour le coup, je pense que la critique doit être très très dure parce que c'est insupportable. Ensuite, le troisième cercle, c'est le processus de paix. Et à l'intérieur de ce troisième cercle, il y a que veut Joe Biden. Et là, si vous voulez, ça va être le passage le plus douloureux pour ceux qui nous écoutent et qui ont de la famille là-bas, entre autres. C'est que ça va pas bien se passer avec Joe Biden, d'après moi. D'abord, déjà, le cessez-le-feu n'était pas voulu par Israël. Israël voulait un cessez-le-feu, mais pas tout de suite. Parce qu'ils étaient quittes à faire la guerre autant qu'on finisse
Terminer le
en
travail.
étant vraiment vainqueur. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. C'est Joe Biden et l'Égypte qui ont insisté. Ils voulaient un cessez-le-feu le jeudi. On a été obligé de leur donner le vendredi. Donc, c'est le retour des pressions américaines. Beaucoup de gens qui nous écoutent ont dit, mais alors quoi, il y a des pressions américaines, qu'est-ce que ça peut nous faire? Mais il faut savoir que même ce conflit, on peut pas le faire sans l'Amérique. D'abord déjà parce que concrètement, le matériel utilisé, c'est en grande partie du matériel au moins co-construit avec les Américains. L'aide militaire est juste énorme. L'aide au pays est considérable. Et s'il y a une résolution à l'ONU pour condamner Israël, le veto il est américain. Donc si vous voulez, avant Trump disait, en gros, Israël et les États-Unis, c'est la même chose. C'est nous. Israël, c'est nous. Donc, on va pas faire pression sur nous. Mais Joe Biden, il pense pas comme ça. Joe Biden, il pense que le rôle de l'Amérique au Proche-Orient doit être celui d'un arbitre, d'un policier, d'une grande puissance, tel que ça a toujours été. Pas comme Trump, comme ça a toujours été auparavant. c'est pas seulement Obama, c'est Bill Clinton aussi, c'est tout le monde, George Bush. Et là, les pressions vont recommencer. Joe Biden a dit deux choses. Il a dit, je suis attaché à la sécurité de l'État d'Israël, j'ai pas changé. Alors, vous avez entendu la phrase? Je suis attaché à la sécurité d'Israël. C'est-à-dire, oui, je veux pas qu'il meure. Mmh. Je suis attaché à la sécurité. C'est pas Israël, nanana. Non, non. Déjà là, il y a une nuance. Mais par contre, son entourage a dit très clairement qu'on allait faire pression sur Israël pour limiter la construction dans les territoires. Enfin, c'est plus comme avant. C'est-à-dire, dans les implantations, c'est un adversaire de la paix pour Joe Biden. Donc, c'est un adversaire des États-Unis, des implantations juives dans les territoires. Et il a dit, on va donner une aide qu'il a qualifiée de majeure à la bande de Gaza. Alors, on revient à la question qu'on vient d'évoquer. À qui on va la donner? Qui dirige Gaza? Le Hamas. Et là, on va avoir un vrai souci, parce que vous vous souvenez aussi que j'ai dit que dans la stratégie à court terme des Israéliens, il y a ne pas reconstruire Gaza tant que les Israéliens ne reviennent pas à la maison. Et là, on va avoir encore un champ d'opposition. Et je termine en vous disant que, un, le fait que Joe Biden ait demandé un cessez-le-feu rapidement de 11 jours, le précédent conflit de Tsuketan avait pris 50 jours, donc c'est 5 fois moins, donc c'est rapide. Mais là, on apprend l'arrivée d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, dans les jours qui viennent, parce qu'il veut relancer le processus de paix et relancer l'idée d'une solution à deux États. C'est une solution, bien sûr, très, très légitime, sauf que d'après moi, la solution à deux États, c'est un leurre, c'est fini. Il faut trouver une autre solution pour voir comment les gens vont vivre ensemble maintenant. C'est pas, enfin, je veux dire, c'est à la limite, on a presque envie de lui dire Monsieur Biden, vous parlez sérieusement? Et alors, il dit, les deux parties ont le droit d'une prospérité, démocratie et sécurité égales. Mais on sait très bien que la prospérité et la démocratie, c'est les Israéliens qui l'ont. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lutter pour que les Palestiniens arrivent au niveau des Israéliens, ce qui est très noble, ce qui est une très bonne idée. On parle d'hommes et de femmes. Mais ça veut dire qu'il a une position qui est plutôt pro-palestinienne, puisqu'il va faire en sorte, puisqu'il va plutôt s'occuper des intérêts des Palestiniens. Moi, je pense que là, on va vers des jours difficiles dans les relations entre Américains et Israéliens, d'autant plus que, voilà, les Israéliens ont pris l'habitude que Trump était d'accord sur tout.
Est-ce qu'on peut pas dire que le Hamas a fait cette guerre aussi pour pouvoir prendre le pouvoir dans les territoires? Ah oui, parce que c'est le but. Et c'est pas ce qui est inquiétant, parce que le jour où il va y avoir des élections, l'autorité palestinienne actuellement est totalement décrédibilisée vis-à-vis de la population et il risque de voter Hamas. Est-ce que c'est pas là le plus gros danger pour Israël? Parce que là, on peut pas avoir les deux États, on peut pas avoir une discussion entre Palestiniens et Israéliens. C'est compliqué. On est dans une impasse.
C'est le gros. Ah ouais, non, mais vous avez 100% raison. C'est le gros danger. Et c'est un danger qui n'est absolument pas vu par les stratèges israéliens qui sont toujours dans l'idée de renforcer le Hamas de manière à affaiblir l'autorité palestinienne. Et vraiment, je ne vous fais pas de propagande en vous disant ça. Ça a été même dit. Par exemple, là, mais alors pourquoi? Puisque vous avez la possibilité, techniquement, militairement, d'écraser le Hamas, c'est eux qui ont attaqué les premiers, vous êtes légitimes et tout. Le gouvernement a répondu très calmement, parce qu'on n'est pas intéressé à casser le Hamas, parce que si on casse le Hamas, on va avoir une situation à la syrienne, à la irakienne, avec Daesh, à Gaza, et pour nous, c'est un cauchemar, on n'en veut pas. Donc, on veut du Hamas. Seulement, voilà, vous avez raison. Alors, OK, qu'est-ce qu'on va faire avec le Hamas une fois qu'il sera dans tous les territoires? Et le Hamas, il compte même pas sur les élections. Parce que les élections, il sait que c'est mort. Il compte sur le fait que Mahmoud Abbas va mourir. Et là, il reprendra le pouvoir. Vous savez que le Hamas a le pouvoir depuis 2007 dans la bande de Gaza suite à un coup d'État.
Oui.
Donc faire un deuxième coup d'État dans les territoires de Judée-Samarie ou de Cisjordanie, on les appelle comme on veut, ça ne gêne pas.
À part, oui, que, Hamas, à part que Gaza est, on va dire, indépendant, enfin, il n'y a pas d'Israéliens là-bas. Et alors que dans les territoires, on a quand même Israël qui peut intervenir beaucoup plus massivement. La situation est totalement différente.
Oui, mais moi, d'après moi, Israël n'a aucune stratégie vis-à-vis du Hamas. Aucune. Israël répond au Hamas. Israël considère qu'on vivra toujours en guerre, qu'on doit accepter ça, qu'on est dans un conflit de basse intensité, comme on dit, et qu'on doit apprendre à vivre avec. D'autant plus que le Hamas l'a montré, entre toutes les confrontations, Serge, je vous le dis, entre toutes les confrontations, à chaque fois où on est revenu sur la piste, le Hamas était plus fort que la veille. Toujours. Ça ne s'est jamais démenti. Alors là, paraît-il, donc, ils ont vraiment été cassés, brisés, OK, il n'y a pas que qui se prépare, le Tzahal aussi se prépare, le Mossad aussi se prépare. Mais au final, La norme, il est possible, il est imaginable, que le prochain conflit, c'est des missiles sur Haïfa. Parce que ça n'a jamais été démenti. Il n'y a jamais eu une confrontation comme terrible, comme à Jaffa, avec des bombardements intenses, etc. Et le Hamas qui revient 2 ans et demi après, qui est plus faible, puisqu'on lui a cassé tous ses jouets, si j'ose dire. Non.
Il reconstitue à chaque fois. Il reconstitue.
C'est toujours plus fort. Donc c'est pas oui, on attend la prochaine fois, parce que eux, ils attendent pas. C'est pas, voyons, on fait la paix, on fait un cessez-le-feu, et on fait pas du tout la paix, on fait un cessez-le-feu, enfin bref, on arrête les hostilités, et puis on se dit, voilà, on a gagné 2 ans. On n'a pas gagné 2 ans. Pendant 2 ans, le Hamas
se reconstitue. D'où le fait que je disais tout à l'heure, on n'est pas dans le calme après la tempête, mais on est plutôt dans l'œil du cyclone. Alors on attend le retour du cyclone pour la prochaine fois.
On est au Proche-Orient.
Je crois qu'on aura l'occasion, c'est éternel problème, ça, c'est ça le problème d'ailleurs. C'est qu'on va avoir l'occasion d'en reparler dimanche prochain. Merci Bernard.
Merci beaucoup Serge, bonsoir à vous.